Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Le débat des grandes voix, chaque samedi, chaque dimanche jusqu'à 19h, c'est l'actualité en débat avec ce soir sur Europe 1, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir
à tous.
J'en parlais il y a un instant avec Mohamed Sifaoui. Emmanuel Macron veut combattre l'islamisme par l'école, les associations, la formation des imams. Dans sa ligne, la création d'un islam des Lumières compatible avec les valeurs de la République. Je vous demanderai les points saillants que vous retenez de ce discours qui annonce la présentation de la loi contre les séparatismes le 9 décembre prochain. À l'étranger, Donald Trump atteint du Covid depuis hier soir hospitalisé. L'état de Trump ces dernières 24 heures était très inquiétant. D'après des sources proches du président, l'épidémie comme arbitre d'une campagne surréaliste. On y revient sur Europe 1.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Mais voici d'abord en guise d'apéritif vos coups de cœur, de blouses, de griffes. Laetitia Krupa, de quoi s'agit-il ce soir? Coup de cœur.
Un coup de cœur pour le dernier livre de Cynthia Fleury, qui est, vous le savez, philosophe et psychanalyste. Son titre, Sigy l'amère. Il est question en fait de l'amertume ambiante, hein, vous savez, ce ressentiment qu'on commence à entendre un peu de façon répétée, hein, qui n'est pas de la colère, mais qui est un ressentiment de ne pas être considéré à sa juste valeur, de ne pas être à la juste place, de ne pas recevoir la juste protection de l'État. Cynthia Fleury reconnaît le besoin de justice sociale, évidemment, l'urgence de corriger les inégalités, mais son constat est alarmiste. Elle dit « Le fascisme existera à nouveau car il ne relève pas d'un moment historique mais correspond à une situation psychique. » C'est toute la force du bouquin aussi. Mm-hmm. C'est qu'elle mêle le prisme philosophique, le prisme politique au prisme psychique. Ça a l'air compliqué, hein, mais sa démonstration est limpide. Les conditions socio-économiques actuelles et la dynamique d'incertitude, notamment due à la crise sanitaire, viennent réactiver des pulsions très archaïques, qui sont légitimées d'ailleurs par certains leaders, et ça c'est moi qui le rajoute, certains médias. Bref, le ressentiment contemporain menace la démocratie, selon Cynthia Fleury, qui appelle et qui espère un sursaut individuel. Alors j'espère que je ne vous ai pas démoralisé là pour l'apéritif, mais je pense que ce type de sonnette d'alarme est un constat utile, voilà,
qu'il
est encore...
Pour comprendre la mécanique implacable qu'elle décrit. Sigy l'amère, Cynthia Fleury, dernier ouvrage de la philosophe. Merci Laetitia Krupa pour ce coup de cœur. Philippe Moreau-Chevrolet, ce soir, qu'est-ce que...
Alors,
c'est...
Ce soir, Wendy, j'ai un coup de cœur pour Victor. Victor est un ami, il a une trentaine d'années. Il y a un an, son père a été diagnostiqué avec un cancer. Un de ces cancers qui vous laisse aucune chance. Les médecins n'espéraient pas sauver le père de Victor, mais ils pouvaient prolonger sa vie de quelques mois, peut-être un an. Mm-hmm. C'était un traitement lourd et qu'il enverrait peut-être en réanimation. En temps normal, trouver une place en réanimation ou en réa, comme on dit, ne pose pas de difficultés, même si on réduit le nombre de lits chaque année, même si les salaires des soignants sont tellement bas en France qu'on ne parvient pas à recruter suffisamment. On y arrive, on réussit à trouver de la place, en temps normal. Là, on était au mois de mars, alors les médecins ont dit au père de Victor qu'il n'y avait pas de place pour lui et qu'il fallait attendre le déconfinement. Quand le déconfinement est arrivé, il était trop tard, c'est ce que les médecins appellent la perte de chance. Mmh. Le père de Victor n'a pas hurlé qu'on lui supprimait sa liberté. Il n'a pas crié à la fin de la civilisation française. Il n'a pas fait de post sur Instagram entre deux photos de piscine et de copines célèbres. D'abord parce que il n'en a pas de piscine et puis pas de copines célèbres. Il est parti, comme le dit joliment Victor, sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, Victor n'est pas en colère, il n'a pas de haine. Mais quand il voit qu'on se moque des mesures sanitaires à Marseille, à Lille ou à Paris, ça lui fait mal. Et il se demande combien de gens qui n'entreront pas dans les statistiques officielles du Covid-19 devront payer le prix de notre légèreté, Wendy.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet pour votre ami Victor. Coup de cœur vraiment très, très humain qui traduit cette réalité, Frédéric Dabi.
Oui, c'est extrêmement émouvant. Je rappellerai, je donne un chiffre statistique IFOP brut, mais les Français n'ont pas attendu le Covid pour mettre la santé comme première priorité. Les Français, c'était... un échange qu'on avait ensemble il y a un an, Wendy, où pour la première fois, les Français avaient mis comme priorité urgentissime à prendre en charge par les pouvoirs publics la santé devant le chômage, devant le pouvoir d'achat. Autre chiffre, on avait fait une enquête pour les un an des Gilets jaunes sur ce qui mettait en colère les Français. Et juste devant le fait que le travail payait mal au cœur de ce mouvement des Gilets jaunes, il y avait l'état de l'hôpital, l'état des grandes institutions françaises. Et c'est un lien un petit peu statistique et, je dirais, froid, mais qui fait le lien avec cette histoire vraie assez émouvante que Philippe nous en arrive.
Ouais, très émouvante, et je fais le lien avec l'actualité puisque les professionnels de santé se préparent à une seconde vague et prennent les devants. L'assistance publique hôpitaux de Paris qui envisage l'annulation des congés de son personnel à compter de ce mois, notamment pendant les vacances de la Toussaint. Ça, c'est une note adressée à des responsables de ressources humaines qui le soulignent sur la base du volontariat, mais ça traduit justement cet état d'urgence qui est entré vraiment aussi dans l'ADN des personnels de santé. On va terminer ce tour de table, Frédéric Dabi, pour le coup, pour
un coup de cœur alléger l'ambiance. C'est un coup de cœur pour Hugo Gaston, un Français qui accède à l'âge de 20 ans au 8e de finale de Roland-Garros, qui a battu Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur en 2015. Bah, c'est une bonne nouvelle dans Roland-Garros, c'est un peu sépulcral, oui. Dans un contexte assez catastrophique pour le tennis français, entre déclin des mousquetaires, des quatre mousquetaires des années 2000-2010, Tsonga, Gasquet, Monfils et Simon. Il faut le dire, je suis fan de tennis, agacement face à certains comportements de joueurs actuels français. Et c'est vrai, dans ce contexte morose, où on attend depuis 37 ans un vainqueur, un successeur à Yannick Noah.
Le temps passe vite,
voilà,
déjà
20 ans pour Marie Pierce. Je suis toujours agacé d'entendre qu'il n'y a pas une Française vainqueur depuis. Non, il y a eu une Française vainqueur en 2000, c'était Marie Pierce. Et donc, ce Hugo Gaston apporte un vent d'optimisme, de fraîcheur, avec un jeu extrêmement créatif, fait de coups un peu rétro, des amortis, du slice, des services volés. Bon, demain, il va s'attaquer à un très, très gros morceau, l'Autrichien Dominic Thiem. Il n'est absolument pas favori, mais voilà, c'est assez sympathique de voir cette bonne surprise française.
Bah, on aime ces histoires hein, qui réveillent le tournoi à 20 ans, 239e mondial. Ça nous propulse dans une autre dimension aussi sportive. Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Crepa, petite pause et on entre dans le débat ensemble. Alors que son discours était attendu, il fut applaudi et sera suivi d'une loi le 9 décembre prochain. On parle de la loi contre les séparatismes. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix.
Et oui, sur Europe 1, jusqu'à 19h, avec Laetitia Crepa, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi. On va réagir ensemble à l'analyse du président Macron sur la responsabilité politique dans l'installation de l'islam politique en France. Petit extrait et vos éclairages juste après.
Au fond, ce que la République n'a plus apporté parce qu'elle était submergée par ses propres difficultés, parce que parfois elle avait reculé en termes de services publics, eh bien, ces organisations, les porteurs de cet islam radical, s'y sont méthodiquement substitué. Et donc, sur nos reculs, parfois nos lâchetés, ils ont construit leur projet.
Il y a eu le ton, le verbe employé, le degré de combativité. Il a nommé les choses, il a même dit qu'il nommait les choses. Emmanuel Macron, Laetitia Crepa.
Avant cette prise de parole, ce discours tant attendu, il y avait une discussion au sein de l'exécutif pour ou contre nommer et cibler l'islam radical. Mmh. Bon. Emmanuel Macron était un peu hésitant, il voulait parler des séparatismes pour ne pas stigmatiser uniquement cette religion. Et finalement, on l'a entendu de façon très claire. Alors, il a bien pris soin de ne pas viser l'ensemble des musulmans. Donc, dans les mots, il a nommé, effectivement, cette branche pourrie de l'islam, comme l'appelait Manuel Valls, c'est-à-dire l'islamisme radical. Je pense qu'un discours avec cette ambition-là, parce qu'il y a aussi des mesures, il n'y a pas que les mots sont posés, le constat est fait, il y a aussi un constat contextuel, c'est-à-dire qu'il n'oubliait pas non plus le passé colonial de la France, qu'il n'oubliait pas la politique de la ville qui a échoué parce qu'il y a des ghettos qui existent aujourd'hui et il a dit lui-même que la France avait sa part de responsabilité dans ce séparatisme-là. Donc c'est un discours dans les mots, je trouve, relativement global et les mesures annoncées après leur mise en œuvre, voilà. Tout l'enjeu est là, hein, oui. Parce qu'il y a quand même un grand nombre de mesures. Il y a de la réglementation, donc comment mettre en œuvre toutes ces mesures, cet arsenal, c'est l'enjeu d'Emmanuel Macron. En tout cas, bien sûr. On l'attendait sur ce discours, et il me semble qu'il a été au rendez-vous.
Puis c'était clair, on parle des séparatismes, il y en a un qui était vraiment au cœur du sujet et du projet, Philippe.
Oui, c'est vrai, c'est clair. Alors le problème, c'est le mot séparatisme. Parce qu'en fait, il y a une concurrence entre deux types de discours sur l'islam. Du coup, il y a un discours qui va être celui d'Emmanuel Macron, un discours plutôt poli, plutôt lettré, plutôt intelligent. Et puis, il y a le discours, on va dire, d'extrême droite, qu'on voit sur certaines chaînes info. Donc un discours qui se développe. Le problème, c'est le problème de la clarté. Le président aborde ce thème du séparatisme à un moment où il n'est pas spécialement audible. On l'attendait sur la réaction aux attentats de Charlie, peut-être davantage. On l'attendait sur le sanitaire. Il vient nous parler en fin de semaine du séparatisme. Le timing n'est pas terrible. Et puis, il utilise des mots encore très châtiés, très polis, etc. Alors que l'extrême droite est à fond sur le thème de l'islamisme et va beaucoup plus loin. Donc la question, c'est quel discours peut gagner dans cette concurrence de discours entre le sien Est-ce qu'il peut être audible et s'ancrer à droite avec ça ou est-ce que les gens peuvent se dire un petit peu comme l'opposition hein ? Ok, c'est des mots, c'est intéressant, c'est joli, c'est un joli discours.
Mais ouais, dans les faits,
qu'est-ce qui va se passer ?
Oui.
Oui, il y a des mesures, mais les mesures sont contestées pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, par exemple, l'enseignement à domicile va être attaqué par beaucoup de familles catholiques et pas spécialement par des musulmans. Voilà. Donc ça crée des débats qui ne devraient pas avoir lieu.
Au nom de leur liberté et d'une mesure liberticide de fait, Frédéric Dabi.
Je retiens ce que dit Philippe sur la question de l'agenda. Est-ce que c'était le bon moment pour parler de cette question ? C'est vrai que le terme séparatisme n'est pas un terme que les Français se sont approprié. Oui. Pour autant, il l'a éclairé par l'adjectif ou l'épithète islamiste. Et c'est vrai que je trouve qu'il a fait plutôt les constats et où il a mis fin à ces tergiversations, pardon, à ces querelles sémantiques en disant les choses. Lorsqu'au début de son discours, il faut s'attaquer au séparatisme islamique. C'est vrai que l'agenda est assez compliqué. On se souvient du débat sur l'identité nationale initié par Nicolas Sarkozy en 2010 ou 2011, dans un contexte aussi, non pas sanitaire, mais insécuritaire fort, où le chômage montait très fortement, autre point commun avec la période, où les Français, dans nos enquêtes qualitatives, parlaient de stratégies de diversion, de stratégies dilatoires. Ils parlent de ce sujet car il est impuissant sur d'autres sujets. Pour autant, je pense que, dans un contexte où il est également perçu sous l'angle de l'inaction sur ce sujet, il ne pouvait pas ne pas parler, ne pas proposer toutes ces mesures. Son dernier grand discours sur ce sujet, c'était il y a un an, en octobre dernier, au moment après l'attentat à la préfecture de police de Paris. Maintenant, les Français voudront des résultats dans ce domaine et il a peut-être réussi pour la première fois à installer un marqueur sur ces sujets régaliens, alors qu'il a réussi depuis le début du quinquennat à installer des marqueurs économiques et des marqueurs internationaux.
Oui, il y a une mesure qui vous a particulièrement dans ce contexte, en dépit de tout ce que vous dites, qui vous a quand même marqué justement sur ce réveil républicain, Laetitia Krupa, annoncé hier au Mureaux par...
Moi, je trouve qu'en fait, l'ensemble de mesures est relativement cohérent parce qu'on comprend que l'enjeu, c'est de protéger tous les espaces qui sont susceptibles d'être perméables à la diffusion de l'idéologie islamiste. Donc oui, ça me paraît cohérent. Après, encore une fois, quid de l'application de ces mesures ? C'est-à-dire que le temps, vous savez, qui lui reste est court. Est-ce qu'il aura les moyens suffisants ? Est-ce qu'il n'y aura pas de la contestation au cas par cas ? Comment, par exemple, vérifier que les associations respectent bien cette charte de la laïcité ? Vous voyez, il y a des mesures, évidemment. Après, c'est tout préalable d'une action politique. C'est-à-dire qu'il faut peser les choses, annoncer et ensuite mettre en œuvre. Là, on l'attend sur la mise en œuvre.
Oui, il n'y a pas de naïveté, pas d'angélisme de la part du président. Il a quand même rassuré, justement, l'auditoire sur le fait que même s'il ne s'exprimait pas, il y avait des cellules de veille anti-islamiste un peu dans ces quartiers menés par les hauts fonctionnaires de l'État.
Oui, il y a une action de l'État qui l'a rappelé. Puis c'est vrai qu'il est dans son rôle de marquer son territoire là-dessus. Il fait une campagne à droite pour 2022. Il ne peut pas tellement faire autrement. C'est un débat récurrent, un débat de fond. Après, comme le dit Frédéric, chaque président l'a fait. C'est-à-dire, il y a eu Nicolas Sarkozy avec l'identité nationale. On a eu François Hollande avec la déchéance de nationalité. Donc, c'est une mue d'Emmanuel Macron qui est remarquable parce qu'il s'était construit contre Valls quand il était au gouvernement.
Voilà. Et là, il se retrouve.
Il va sur le territoire de Valls.
Je suis d'accord avec Philippe, même si il est dans une certaine, par rapport à l'extrait que vous avez passé, Wendy, il y a une certaine continuité avec ce qu'il avait dit après les attentats de 2015. Vous avez parlé aussi de la dimension sociale. Quand il parle quand il fait un lien entre le recul des services publics et ces forces anti-républicaines qui s'engouffrent dans certains quartiers, c'est un lien que les Français opèrent complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme service public n'est fait plus l'objet d'un clivage gauche-droite. Le recul des services publics, c'est le signe que l'État n'est plus là et qu'il y a un État démantelé.
Ouais, sur la proximité avec Valls, Laetitia, vous
voulez dire ? Non, c'est pas ça, c'est par rapport aux autres présidents. Oui. Moi, j'ai pas entendu, alors bien sûr qu'on l'a toujours un peu évoqué, mais de façon aussi frontale et aussi directe, le passé colonial et la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron, il a au moins cette qualité, c'est de nommer les choses et nommer ce passé colonial. On sait très bien ce qu'il avait dit sur la guerre d'Algérie, mais c'est un certain courage en politique. Et il me semble que ne pas regarder le passé de façon aussi directe, ça biaise de toute façon le présent
après,
et l'avenir.
Il faut en faire un argument systématique, nous disait Mohamed Sifaoui, c'est tout le dosage qui est
à comprendre. Non, mais c'est une vérité, en fait, ça semble évident
c'est
pour
un
tout
élément
le monde,
de la compréhension
sauf
du
que
problème.
Pas beaucoup de politiques le disent.
Voilà. On pourrait dire avec une certaine... si on faisait un peu d'ironie, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron a tendance à être beaucoup plus doué avec le passé qu'avec le présent dans ses analyses. Mais C'est très juste et c'est l'un des rares à parler du passé de la colonisation de cette façon.
Il est 18h54 sur Europe 1.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Et j'aimerais que nous revenions avec vous, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et Frédéric Dabi, sur l'état de santé de Donald Trump.
On n'a pas fait de bulletin de santé, Wendy.
Non, mais son médecin l'a fait à titre personnel il y a quelques instants, ne vous inquiétez pas. Il va très bien, le président, il s'est dit même possiblement prêt à sortir aujourd'hui, mais son état ces dernières 24 heures aurait été très inquiétant. J'en parlerai avec Nicole Bacharan. On ne va pas dans un hôpital militaire pour le plaisir. En matière de mise en scène et de communication, alors Frédéric Dabi, réaction
déjà,
là-dessus, parce que
première chose,
on a tous suivi des séquences.
Le Covid impose sa cadence et s'immisce, y compris
même
dans quelque chose qui est aussi cadencé, organisé et formaté qu'une élection présidentielle. Plus que jamais, Donald Trump est en difficulté. Il souhaite sa réélection dans un contexte de crise économique massive. Et c'est vrai que quand on regarde Hoover dans les années 30, Jimmy Carter ou Bush dans les années 90, Bush père, c'est jamais difficile, c'est jamais facile d'être réélu. Cette affaire, peut-être cette mise en scène ou pas, mais la manière dont ça a été ordonné me rappelle furieusement un film qui s'appelait Bob Roberts dans les années 90 avec Tim Robbins, où on voyait un chanteur un peu réac qui voulait devenir sénateur à tout prix, y compris en mettant en scène sa maladie. Je ne dis pas qu'il met en scène, mais la communication autour de cette maladie, autour de ce séjour dans un hôpital est particulièrement flagrante.
Oui, nous au même niveau le Covid en tout cas, les plus puissants comme les plus modestes.
Oui, vous savez,
Philippe,
cette citation, le sommeil, c'est cette chose qui met les puissants sur leur dos comme tout le monde finalement. Bien, c'est pareil avec le Covid, il met tout le monde sur son dos, les puissants, les misérables. Donc c'est un grand égalisateur républicain, le Covid. Alors pas de la bonne façon, c'est pas la bonne qualité d'égalité. En revanche, il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'il a tenu à aller à l'hôpital tant qu'il pouvait encore marcher. Donc on l'a fait passer à l'hôpital très tôt parce qu'il voulait marcher jusqu'à son hélicoptère. Il ne voulait pas prendre le risque d'avoir des images qui le montraient vraiment en situation de faiblesse.
Hillary Clinton, par exemple, il y a 4 ans, boîte en bas après un meeting, avait beaucoup marqué le pays.
C'est vrai.
Et il est en campagne. Et le problème, c'est que s'il apparaît faible, là, il peut perdre aussi son électorat. Donc ce qui peut jouer, c'est si effectivement il arrive à vaincre le virus, revenir en disant « Regardez, le Covid, je l'ai tué, donc ça ne va pas être difficile pour vous ». Il y a quand même une grosse interrogation, je terminerai par ça, parce qu'il est quand même il est à risque, Donald Trump. Et puis ses médecins lui ont donné un remède incroyable. Oui, c'est des traitements qui n'existent pas en fait, c'est des traitements en cours de développement.
Oui.
Et la réflexion des médecins en France, c'est de se dire, on donne rarement des traitements expérimentaux à des gens qui vont bien. Voilà, donc on croira quand il sortira de l'hôpital.
Oui, mais c'est le storytelling, pour reprendre un anglicisme.
Et alors, ce qui est surprenant et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que Donald Trump est face à sa stratégie, à la stratégie des alternatives facts. Vous savez, cette vérité alternative. Parce que quand il nous envoie cette vidéo hier soir, où il est face caméra et nous dit tout va bien, mais qui peut les croire? Qui peut le croire? Le New York Times a recensé les mensonges de Donald Trump. Ils le font depuis son arrivée à la Maison-Blanche. 20 000 en 4 ans. Qui peut croire Donald Trump quand il dit face caméra, je vais très bien? Il est pris à son propre piège. Alors là, dernière info qui vient de tomber, d'une source ayant connaissance de son état de santé, son état est très inquiétant. Donc, qui croire? Son dernier bulletin de santé, son médecin qui nous dit tout va bien, ou cette source?
Quelle contradiction,
ou les gens qui croient que Trump a mis en scène sa maladie et qu'il n'est pas malade pour revenir en politique.
Exactement.
Oh là là.
Oui, on a vu
ça,
une popularité exploser pour Bojo en Angleterre après sa maladie. Pour Trump, c'est beaucoup plus compliqué puisque, comme vous disiez Philippe, il est sur une logique de force.
Merci beaucoup, messieurs, merci madame. Demain, on parlera de la gestion de crise sanitaire en France aussi, avec la position d'Olivier Véran sur la situation parisienne, état d'alerte maximale ou pas. Je vous remercie vraiment pour vos coups de cœur, vos coups de gueule et vos analyses chaque semaine sur Europe 1. C'est un plaisir. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi de l'IFOP et Philippe Moreau-Chevrolet. À demain.